This paper has been slightly modified to optimize your listening experience. While we have included a brief description of the figures and tables, all references, citations, parentheses, appendices, footnotes and endnotes have been removed. To obtain these tables, figures, appendices, full references and citations for this paper, please view the PDF version at the Canadian Journal of Learning and Technology website, www.cjlt.ca. The copyright for this article belongs to the authors and is openly released under a Creative Commons Attribution 4.0 international license. The title of this article is
Séquence de changement de formatrice universitaire dans une formation intersectorielle sur la compétence numérique en éducation.
Sequences of change of university trainers in intersectoral training on digital competence in education. The authors of this article are
Florian Meyer, Université de Sherbrooke. Clara Dian-Charles, Université de Sherbrooke. Caroline Pelletier, Université de Sherbrooke. Guillaume Laporte, Jonction Éducation, et Félix Arguin, Jonction Éducation. Résumé. La formation Action a été vécue durant l'automne 2019. Elle était offerte à des formateurs universitaires et certains de leurs étudiants de baccalauréat en enseignement. Ce modèle unique visait le développement de la compétence numérique de ces personnes. Exploitant le cadre théorique de la croissance professionnelle de Clark et Hollingsworth, cette recherche visait à déterminer les séquences de changements générées grâce à cette formation afin de comprendre son apport pour le développement de la compétence numérique chez les différentes personnes participantes. Elle a permis de comprendre que ce modèle de formation présente un certain potentiel pour le développement professionnel des formateurs universitaires. Mots-clés, compétences numériques, croissance professionnelle, formation des enseignants, innovation.
Abstract. The Action Training was held in the fall of 2019 and was offered to university trainers and Bachelor of Education students. This unique model was aimed at developing the digital competence of the participants. Using the theoretical framework of professional growth from Clark and Hollingsworth, this research aimed to identify the sequences of change generated by the training to understand its contribution to the development of the digital competence by the various participants. The research led to the understanding that this training model has interesting potential for the professional development of university trainers. Keywords: digital competence, professional growth, teacher training, innovation.
Introduction. Les bouleversements vécus par les enseignants en raison de la pandémie de COVID-19 ont mis en exergue le défi que représente la maîtrise de la compétence numérique dans le monde de l'enseignement actuel. Face à ce besoin, des modèles variés émergent pour en soutenir le développement. En effet, non seulement le numérique offre de riches potentialités pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage dans les différents domaines disciplinaires du préscolaire à l'universitaire, mais il représente également un objet d'apprentissage en soi et nécessite de nombreuses réflexions du point de vue social, éthique ou identitaire. Cette omniprésence forte, l'évolution constante et rapide du numérique ainsi que le caractère multidimensionnel que représente cette compétence impliquent de repenser et de mettre à jour la formation du personnel enseignant, afin de notamment mieux prendre en compte les progrès importants qui ont eu lieu dans des domaines comme la robotique, l'intelligence artificielle ou l'automatisation ou encore de mieux cerner les enjeux éthiques et critiques, ainsi que les besoins des responsables de la formation du personnel enseignant qui doivent composer dans leur formation avec la dimension systémique et les multiples connaissances et compétences que requiert l'intégration du numérique. Bien que conscient de la nécessité de cette mise à jour, un grand nombre des formateurs de la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke ont exprimé, lors de différentes rencontres de refonte des programmes de formation à l'enseignement, se trouver préoccupés de ne pas maîtriser suffisamment eux-mêmes cette compétence numérique et encore moins de savoir comment soutenir son développement chez leurs étudiants. Parallèlement, les étudiants en enseignement, également conscients de l'importance de développer cette compétence numérique, demandent vivement à être formés à cette compétence et aux multiples possibilités qu'offre le numérique. Ce besoin exprimé par les futurs enseignants n'est d'ailleurs pas propre à notre faculté et s'exprime ailleurs dans le monde, car même si des cours consacrés au numérique sont proposés dans plusieurs programmes à l'enseignement, ceux-ci ne suffisent pas. Prenant en compte ces besoins, nous avons développé un modèle de formation qui favorise un partenariat entre les milieux scolaires et universitaires, ainsi qu'entre formateurs et étudiants. Une première itération de la formation a été vécue durant l'automne 2019 par 22 personnes qui ont pu collaborer avec 5 enseignants titulaires à temps plein de leur classe dans une école secondaire privée. Cette formation non créditée s'étend sur une période de 15 semaines, représentant près de 40 heures d'investissement réparties entre des activités collectives en présentiel, des activités individuelles à distance et des activités collaboratives en petites équipes en présence ou à distance selon les équipes. Considérant que le développement professionnel vise une progression et un changement des pratiques, cette formation a été étudiée afin de comprendre son apport pour le développement de la compétence numérique chez les différentes personnes impliquées. Ainsi, nous appuyant sur une méthodologie qualitative descriptive, nous avons exploité des entrevues individuelles afin de dresser le portrait de développement de différents participants durant et grâce à la formation. Nous focaliserons dans le cadre de cet article sur les formateurs universitaires en portant une attention spécifique à l'évolution de leur compréhension de leur rôle dans la formation à la compétence numérique de leurs étudiants. Problématique. La formation s'intitule Action. La première itération de la formation a pu être conçue et vécue grâce à un financement obtenu du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre de l'appel de projet d'innovation lié aux technologies numériques lancé à l'automne 2018. La formation Action a été développée conjointement par l'organisme Jonction Éducation et par le pôle d'innovation technopédagogique de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. JE est un organisme fondé par deux enseignants du secondaire d'expérience et spécialistes de l'intégration du numérique. Cet organisme offre des services technopédagogiques de pointe afin de permettre aux établissements de formation ainsi qu'à toute personne, groupe, entreprise ou organisation communautaire de s'initier, de maîtriser et d'intégrer les nouvelles technologies dans leurs activités professionnelles et personnelles. Le pôle, quant à lui, a pour but d'améliorer la qualité de la formation en soutenant l'innovation technopédagogique selon les dimensions formation hybride et en ligne et formation en présentiel intégrant les technologies et s'adresse avant tout aux personnes formatrices de la faculté d'éducation. Cette formation trouve donc une de ses spécificités dans la mise en commun de l'expertise universitaire des conseillers technopédagogiques facultaires et de l'expertise des spécialistes du numérique issus du milieu scolaire. En effet, les conseillers technopédagogiques facultaires détiennent une expertise qui favorise la prise en compte de fondements scientifiques au regard de la technopédagogie, tout en proposant un regard critique et éthique sur l'utilisation du numérique. Les spécialistes du numérique de jeu détiennent quant à eux une expertise qui permet l'ancrage dans des pratiques scolaires jugées efficaces en matière d'apprentissage pour la réussite des élèves au XXI siècle et l'accès aux outils numériques utilisés en milieu scolaire. Ainsi, la formation Action mise sur la mutualisation des ressources des deux milieux tout en permettant aux participants d'expérimenter et d'adopter des pratiques d'enseignement et d'apprentissage exploitant le numérique fondé et efficace. Une autre spécificité de cette formation est qu'elle forme conjointement des étudiants et leurs formateurs. 11 étudiants en quatrième année du baccalauréat en enseignement secondaire et 9 de leurs formateurs ont participé à cette formation qui s'est déroulée de septembre à décembre 2019. Les participants proviennent tous du même programme de baccalauréat qui a été ciblé parce qu'il est actuellement engagé dans un processus de refonte et parce qu'il ne contient aucun cours consacré spécifiquement à l'usage du numérique. Les étudiants futurs enseignants qui ont décidé de participer l'ont fait en complément de leur baccalauréat et aucun crédit universitaire n'était associé à cette participation. Une petite bourse leur a été offerte en fin de parcours pour souligner leur engagement. Les professeurs et chargés de cours participants le faisaient sur une base totalement volontaire. Se basant sur le cadre de référence de la compétence numérique du MEI, cette formation vise 5 objectifs. 1. Explorer la diversité des technologies numériques en usage en éducation, tant en milieu universitaire qu'en milieu de pratique. 2. S'approprier des grilles de lecture permettant de les catégoriser, d'envisager leur utilisation et d'apprécier la valeur ajoutée. 3. Expérimenter une ou plusieurs familles d'outils technologiques sélectionnés par le groupe pilote. 4. Réfléchir aux enjeux pédagogiques et éthiques relatifs à l'utilisation de ces outils dans la pratique enseignante. 5. Définir des outils pertinents à ajouter au cours universitaire par les formateurs. Pour atteindre ces objectifs, la formation Action se déroule en partie en présence, soit au séminaire de Sherbrooke, soit à l'université de Sherbrooke, et en partie à distance de manière asynchrone dans l'environnement Google Classroom. Elle se divise en 4 volets tels que présentés dans la figure 1. Figure 1. Déroulement de la formation Action. Ce modèle de formation présente donc des caractéristiques innovantes et rarement réunies pour une formation visant le développement des compétences technopédagogiques. Elle vise à former conjointement des formateurs universitaires et des étudiants en enseignement d'un même programme. Elle est offerte par des conseillers pédagogiques universitaires et par des enseignants en exercice. Elle se vit en partie dans le milieu scolaire. Elle implique la résolution de problèmes réels provenant de besoins exprimés par des enseignants en exercice. Compte tenu de ses caractéristiques particulières et de l'originalité propre à ce modèle de formation tout à fait nouveau pour l'Université de Sherbrooke, il est nécessaire de comprendre son apport pour le développement de la compétence numérique chez les différentes personnes impliquées et en particulier chez les formateurs engagés. En d'autres termes, il est important de comprendre si une telle formation contribue positivement, et dans quelle mesure, au développement professionnel des personnes qui en bénéficient afin de déterminer la pertinence de son déploiement à plus grande échelle, avec quelles modifications, le cas échéant, et pour quelles raisons. La recherche menée visait donc à répondre aux questions suivantes. Comment les participants ont-ils bénéficié de cette formation pour leur développement professionnel? Comment ont-ils développé leurs compétences numériques? Nous nous concentrons dans le présent article sur les participants formateurs universitaires. Cadre théorique. Nous considérons que le développement professionnel consistant, l'apprentissage et en la construction de connaissances nécessaires au développement et à la mise en œuvre de compétences professionnelles. Ainsi, le développement professionnel relève d'une démarche continue de construction où les connaissances, les compétences et les identités se construisent dans des interactions sociales, dans la réflexion et l'expérimentation et dans des contextes imposant certaines conditions de formation ou de pratique et mobilisant les expériences et les pratiques de référence des acteurs engagés. Le développement professionnel vise une progression et le changement des pratiques professionnelles. Le modèle de la croissance professionnelle de Clark et Hollingsworth indique que pour croître dans son développement professionnel, une personne fait appel à des éléments fortement interconnectés, par des processus de réflexion et de mise en action, issus de quatre grands domaines, le domaine personnel où se situent les connaissances personnelles, les croyances et les attitudes, le domaine externe où se situent les sources d'information et de stimulation, le domaine de la pratique où se situent les expériences et expérimentations professionnelles et le domaine des conséquences où se situent les retombées des expérimentations. La circulation entre ces domaines à travers des mouvements de réflexion et de mise en action génère la dynamique de la croissance professionnelle. Comme le précise Ngwaya, la réflexion est la prise en compte active des événements, des idées et des croyances, alors que l'action désigne le processus de mise en place d'une nouvelle idée, la croyance ou la pratique dans l'action. L'articulation et la circulation entre ces différents domaines sont propres au parcours de chaque individu. Figure 2. The Interconnected Model of Professional Growth. Selon Clark et Hollingsworth, la notion de croissance professionnelle s'applique à un changement qui dure dans le temps. Pour étudier le changement sur une courte période de temps, le modèle interconnecté peut être utilisé pour mettre en évidence des séquences de changement, c'est-à-dire lorsqu'un changement dans un domaine mène, par le biais de mise en action et ou de réflexion, à un changement dans un autre. Ce modèle, représenté à la figure 2, nous permet d'analyser de quelle manière la formation action participe à la croissance professionnelle des formateurs universitaires de la faculté d'éducation. Dans la présente recherche, nous cherchons à déterminer des séquences de changement rendues possibles par les différentes étapes de la formation action. La formation du projet action a été pensée et construite par l'équipe des conseillers pédagogiques de manière à soutenir auprès de futurs enseignants et de formateurs universitaires le développement de la compétence numérique telle que définie dans le cadre de référence de la compétence numérique développée dans le cadre du plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur. Cette compétence se décline en 12 dimensions comme le présente la figure 3. Figure 3. Dimension de la compétence numérique. Nous portons donc un regard particulier sur la compétence numérique construite par les participants engagés dans cette formation en analysant si, et comment, la formation action permet de susciter des séquences de changement relatives à la compétence en général ou à ses dimensions. Lorsque ces séquences de changement mettent en évidence que la formation a favorisé une progression et une autonomisation dans l'usage des technologies relativement à une ou plusieurs de ces 12 dimensions. Nous l'avons définie comme une séquence positive, qui pourrait, si elle est suivie dans le temps d'autres séquences similaires qui se combinent, amorcer des changements durables, source d'une croissance professionnelle. En revanche, lorsque la séquence de changement a clairement mis en évidence des freins sans les résoudre, nous avons considéré qu'il s'agissait d'une séquence de changement négative, car elle ne conduit pas vers un changement potentiel en accord avec la compétence numérique et donc encore moins vers une croissance professionnelle. Ces résultats se distinguent de la satisfaction ou de l'appréciation de la formation. Cadre méthodologique. L'ensemble de la recherche a été mis en œuvre par deux chercheurs externes à l'équipe de formation, à l'aide d'un formulaire de consentement qu'ils ont signé librement. Les participants ont été informés dès le début de la formation de tous les éléments liés à la recherche et de notre engagement à respecter leur anonymat et le respect des règles éthiques. La méthodologie mise en œuvre dans cette recherche s'inspire des travaux de Ngwaya qui nous rappelle que le modèle de Clark et Hollingsworth est considéré, par ses auteurs, comme un outil d'analyse pour la catégorisation des données sur le changement des enseignants en termes de données spécifiques pour chacun des quatre domaines du changement. En termes d'identification empirique des processus par lesquels le changement dans un domaine est associé au changement dans un autre, et surtout, dans l'identification des tendances structurelles de la croissance professionnelle des enseignants. Adoptant une démarche d'étude de cas structurée autour d'entretiens semi-dirigés d'une demi-heure menée auprès de 5 formatrices volontaires quelques jours après la clôture de la formation, en janvier 2020. Notre posture s'inscrit dans un paradigme interprétatif où la réalité est considérée comme un construit subjectif dépendant des représentations des participants et du chercheur. Cela implique, au niveau méthodologique, une prise en compte de l'évolution de chaque individu concerné, qui représente un cas, selon son point de vue et ses représentations. Les entrevues individuelles avec les formatrices étaient structurées par 5 questions ouvertes. 1. Parlez-nous d'action. 2. Quels ont été les 3 ou 4 éléments les plus signifiants, qui vous ont le plus marqué, dans la formation? 3. Comment s'est déroulée cette période pour vous et comment vous êtes-vous situé dans la formation? 4. Qu'est-ce qui a pu être un frein obstacle à votre apprentissage? 5. Vers quoi vous en allez-vous maintenant, et pourquoi? Chacune de ces 5 entrevues a été retranscrite puis analysée selon une démarche d'analyse en 3 itérations suggérées par Srivastava et Opua. La première itération, ancrée dans les entrevues, permettait de repérer les éléments saillants, la deuxième itération visait à coder les différents éléments selon le modèle de Clark et Hollingsworth, tandis que la troisième itération visait à faire émerger la relation dialectique entre les éléments. Cette analyse a mené à reconstruire les différentes séquences de changement. Une validation de la démarche auprès d'une participante et spécialiste du modèle utilisé a permis de confirmer à la fois la compréhension de son expérience ainsi que la démarche d'inscription dans le modèle interconnecté. L'analyse et l'interprétation des résultats ont ensuite été soumises à l'autre chercheur qui a pu questionner chacune des étapes et confirmer leur adéquation avec ses propres interprétations. Une fois qu'une analyse et une interprétation communément partagées ont pu être établies, nous avons procédé à une validation par les répondantes à qui leur séquence de changement était présentée. Elles devaient confirmer si leur séquence de changement était cohérente avec ce qu'elles avaient exprimé lors des entrevues. Ce sont 3 des 5 séquences qui ont ainsi été validées avec les répondantes, les 2 autres participantes n'étant pas disponibles au moment de la validation. Figure 4. Modèle interconnecté de la croissance professionnelle. Afin de faciliter la compréhension et la lecture de ces séquences de changement reconstruites, les processus sont numérotés de 1 à 9 comme le propose Ngoya, soit réflexion 1 à 5 et action 6 à 9. La figure 4 représente ces processus en lien avec les domaines de la croissance professionnelle. Résultat. Les séquences de changement sont présentées distinctement pour chaque formatrice. Il est à noter que tous les noms sont fictifs. Les formatrices utilisent le vocable technologie outique ou numérique pour désigner les ressources numériques, que ce soit les applications ou les matériels. Nous employons leur vocable pour rendre justice à leurs propos, mais comprenons qu'ils sont utilisés en l'occurrence comme des synonymes et réfèrent bien aux ressources numériques dans leur ensemble. Séquence de changement de Janine. Cette formatrice est une chargée de cours en début de carrière. Elle a fait mention lors de son entrevue de ce que nous pourrions qualifier de double séquence de changement puisqu'elle évoque une séquence avant la formation action qui a influé sur ses croyances au début de la formation. Sa séquence de changement s'avère positive, notamment en raison d'une meilleure connaissance du soutien disponible et d'une intention d'apporter des changements dans sa pratique. Tableau 1. Séquence de changement de Janine. Séquence de changement de Christelle. Cette chargée de cours expérimentée évoque, dans son entrevue, une séquence de changement positive où les connaissances acquises peuvent être réinvesties autant dans sa pratique enseignante universitaire qu'en milieu scolaire. En tant que chargée de cours, elle a également utilisé le contexte de la formation pour mieux harmoniser sa pratique avec celle des professeurs. Tableau 2. Séquence de changement de Christelle. Séquence de changement de Lucie. Cette formatrice est une professeure ayant une grande expérience. Elle se positionne durant son entrevue selon sa pratique professionnelle soit en tant que formatrice, soit en tant qu'enseignante. Puisqu'elle considère que son développement professionnel de formatrice en enseignement secondaire comprend ces 2 facettes. Malgré tout, cette séquence démontre une spirale négative, ou un circuit d'impossibilité de mise en pratique. En tant que formatrice comme en tant qu'enseignante est vue comme un cercle vicieux qui mène à un découragement et une déception importante. Tableau 3. Séquence de changement de Lucie. Séquence de changement d'Inès. Cette formatrice est une professeure ayant une grande expérience. Elle présente une séquence de changement qui s'appuie sur 2 séquences en parallèle et sur des constats similaires à ceux de Claire notamment. Cependant, ses réflexions sont différentes et elle affirme découvrir, grâce à la formation, le potentiel de transformation pédagogique des technologies. Cette séquence de changement est positive. Tableau 4. Séquence de changement d'Inès. Séquence de changement de Claire. Cette formatrice est une professeure ayant une grande expérience. Elle présente une séquence de changement positive. Elle part d'une croyance forte que les technologies sont aliénantes et qu'elles ne sont pas intrinsèquement utiles. Si sa perception de la formation est négative, elle développe fortement sa pensée critique qu'elle mobilise ensuite dans un projet technopédagogique. Tableau 5. Séquence de changement de Claire. Discussion. De ces cinq séquences de changement distinctes ne pourra être tirée aucune généralisation. Cependant, plusieurs aspects méritent d'être soulignés. De manière générale, il est indéniable que ces cinq personnes sont entrées dans une séquence de changement dans laquelle la formation action a joué un rôle. Pour quatre d'entre elles, les conséquences ont été une progression et ou une autonomisation dans l'usage des technologies. Et pour une autre, les conséquences étaient la mise en évidence ou le renforcement de freins susceptibles de limiter la croissance professionnelle en ce qui concerne la compétence numérique. Évidemment, plusieurs facteurs issus des quatre domaines ont influencé les processus mis en œuvre par ces personnes et expliquent la variabilité dans les conséquences. Soulignons tout d'abord l'importance des croyances, issues du domaine personnel, qui semblent mener à des réflexions différentes par rapport à des situations similaires, donc créer des séquences différentes. Ces croyances se répartissent en cinq grandes catégories, ce qui n'est pas sans rappeler les observations de Bashi, les croyances sur les compétences technopédagogiques des étudiants, sur leurs propres compétences, sur les technologies accessibles à l'université, sur la pertinence pédagogique des technologies, sur les postures des technophiles. Selon les croyances, une grande disparité dans les conséquences se dessine. Ainsi, les croyances plutôt méfiantes de Claire à l'égard des technologies combinées à sa vision de ce qui constitue un processus d'écriture semblent avoir participé chez elle d'un sentiment de frustration et d'impatience face à la formation. Ce qu'elle perçoit comme un manque de recul critique chez les conseillers pédagogiques, combiné à la présentation de méthodes d'écriture contraires à sa croyance, lui donne l'impression que la formation mise tout sur les technologies, sans respect pour la valeur pédagogique. Il semble en résulter pour elle la croyance que les technophiles adhèrent sans réserve ni critique aux outils technologiques. Or, Inès perçoit également un manque de recul critique chez les conseillers pédagogiques offrant la formation, mais ce constat s'articule différemment avec ses croyances et expériences et mène à une interprétation différente. Elle entame la formation avec une forte curiosité face aux technologies, et une expérience personnelle où elle constate les effets d'un jeu vidéo sur un enfant contribue également à transformer ses perceptions sur le potentiel des technologies. Elle interprète le recul critique perçu comme étant volontaire et comme une invitation ouverte à la réflexion pour les participants, et elle développe au cours de la formation une forte croyance dans le potentiel pédagogique des technologies. Par ailleurs, lorsque les croyances sont fortes quant à son propre niveau de compétence numérique qui est considéré faible, cela crée des attentes qui sont élevées, comme dans le cas de Lucie. S'ajoutant à cela des croyances fortes relatives à l'utilité de certains outils numériques, le niveau de déception est élevé lorsqu'elle perçoit un intérêt modéré d'un des conseillers pédagogiques à l'égard de cet outil et lorsqu'elle ne peut pas elle-même expérimenter ou observer une expérimentation. Il est intéressant ici de constater que les croyances de Lucie l'amènent à percevoir un manque d'ouverture des conseillers pédagogiques à l'égard de certains outils numériques alors que les croyances de Claire et Inès les menaient, à l'inverse, à percevoir un manque de regard critique. Dans le cas de Janine, bien qu'elle ait également des croyances fortes quant à son faible niveau de compétence numérique, le fait de pouvoir expérimenter avant la formation lui a permis de relativiser ses croyances quant aux compétences des étudiants et de comprendre dès le début de la formation qu'elle n'était pas si en retard que cela sur ses collègues, voire qu'elle pouvait apporter quelque chose aux étudiants participant à la formation. Elle a ainsi rapidement changé le sens de sa séquence pour aller vers une croissance positive. Ceci nous amène à penser que, lors d'une prochaine édition, il sera très important de renforcer les modalités favorisant une expérimentation en contexte, afin d'éviter une déception et une séquence de changements négatives comme celle de Lucie. L'une des originalités de la formation action est de mettre les formateurs universitaires et leurs étudiants sur un pied d'égalité en tant qu'apprenants. Les résultats nous montrent que le rapport au pair dans la situation de formation et le rapport aux étudiants ont eu un effet très positif sur les séquences de changement des participants. Cela a permis non seulement à plusieurs personnes de changer leurs croyances envers les étudiants et leurs compétences numériques, mais également, cela a procuré une grande satisfaction à partager et échanger avec eux. Christelle, en tant que chargée de cours, a par ailleurs soulevé l'importance pour elle de la construction de connaissances avec les professeurs, car harmoniser ses pratiques et ses connaissances avec eux, dans un souci de cohérence et d'exigences similaires, était très important pour elle. Ce dernier aspect nous semble particulièrement important afin de continuer à valoriser l'expérience et les compétences des professeurs ainsi que celles des chargés de cours, car ils contribuent tous, bien que leur statut et leur rôle soient différents, au virage numérique et au développement de la compétence numérique des étudiants en enseignement. La découverte des outils numériques présents dans le milieu a changé les croyances et les connaissances relatives au numérique pour enseigner au secondaire, en particulier en ce qui concerne la perception du rôle de formateur. Plusieurs ont en effet évoqué avoir développé un regard plus éclairé sur les possibilités pédagogiques qu'offre le numérique et ce dont disposent les enseignants dans le milieu. Par ailleurs, plusieurs ont pris conscience, à l'instar de Lucie, des différences entre les usages d'outils numériques au secondaire et les usages d'outils numériques à l'université. Cela les a d'ailleurs amenés à se questionner sur la possibilité de former à l'usage du numérique sans avoir utilisé ou expérimenté comme enseignant du secondaire. Cependant, les formateurs ayant pu accompagner les étudiants lors de l'expérimentation dans le milieu ne sont pas présents parmi ces 5 cas, ce qui explique probablement pourquoi aucune de ces personnes n'a évoqué le domaine de la pratique, ni le domaine des conséquences. Peut-être ces expérimentations leur auraient-elles permis d'obtenir des pistes de réponse à cette question. En d'autres termes, ces 5 formatrices ont bien établi la distinction entre ce qu'elles peuvent utiliser dans leurs cours et ce qu'elles peuvent proposer à leurs étudiants d'apprendre pour ensuite l'utiliser avec leurs propres élèves. Mais pour la majorité, il manquait une prise de recul sur leur rôle de formatrice et comment mieux utiliser les technologies en milieu scolaire. La question du temps est également un élément central au travers des propos des formatrices. Pour certaines, les technologies sont chronophages et aliénantes. Pour d'autres formatrices, on n'accorde pas au développement de la compétence numérique le temps qu'on devrait et on ne reçoit pas l'espace-temps requis pour y arriver. Dans tous les cas, le constat est unanime, il faut du temps pour gagner en autonomie avec les outils technologiques, à court et à long terme. Or, le temps est une denrée rare pour beaucoup de formateurs, et libérer le temps nécessaire pour former et expérimenter sur leurs propres tâches se révèle bien souvent irréaliste. Conclusion. Cette recherche nous a permis de comprendre que le modèle de formation action favorise la croissance professionnelle des formateurs universitaires en ce qui concerne la compétence numérique. Plusieurs facteurs ont contribué à cela, dont le temps accordé à la formation, la rencontre entre les milieux et les acteurs variés, mais issus d'un même programme, le partage avec le milieu scolaire, l'exploration d'outils numériques variés et l'expérimentation. De plus, le fait que ce soit le pôle qui prenne en charge cette formation a permis de créer un espace rassembleur dans lequel la présence de formateurs externes n'était pas vue par les participantes rencontrées comme gênante ni déstabilisante. Il n'y a pas eu d'injonction à participer et l'engagement dans la formation s'est fait de manière collégiale et inclusive, ce qui n'était accablant pour personne. Cela nous laisse imaginer que les répercussions seront positives. Concernant la compétence numérique, la formation a mis l'accent en particulier sur le développement de connaissances techniques et réflexives dans les dimensions collaboration, communication et production de contenu de la compétence numérique, et des éléments réflexifs en matière d'innovation, créativité et numérique pour l'apprentissage. La présente analyse nous a permis de mettre de l'avant que la plupart des participantes interrogées a connu une séquence de changements positifs dans plusieurs de ces dimensions, et semble avoir également développé la dimension pensée critique. Cependant, plusieurs questions doivent être soulevées à ce stade. Tout d'abord, comment faire en sorte que les séquences de changement soient suivies par d'autres séquences de changement positives pour ces différentes formatrices ? Comment faire en sorte que ces formatrices s'engagent durant et à la suite de cette formation dans des expérimentations qui vont générer des conséquences favorisant la construction de connaissances et de compétences numériques riches ? Comment adapter le modèle action pour que les croyances des participants soient mieux prises en compte et mieux comprises afin de réduire les spirales négatives ? Toutes ces questions devront attentivement être étudiées lors de la conception de la nouvelle version de la formation action. La crise sanitaire créée par la COVID-19 nous a rapidement démontré que les formateurs universitaires et les enseignants doivent développer des compétences numériques pour pouvoir enseigner en ligne notamment. La marche est d'autant plus grande pour les formateurs universitaires en enseignement qui doivent non seulement miser sur le numérique pour leur propre enseignement, mais doivent également soutenir les futurs enseignants qui devront aussi miser sur le numérique, mais selon d'autres finalités et avec d'autres outils. Ce type de formation semble offrir des perspectives très intéressantes qui nous permettront d'anticiper avec plus de compétences numériques l'enseignement en ligne si une prochaine crise survient. Auteur: Florian Meyer, professeur, Université de Sherbrooke, Griptic, 2500, Boulle de l'Université, Sherbrooke, J1K, 2R1, Canada. Courriel: florian.meyer@usherbrooke.ca. Florian est professeur agrégé en intégration des technologies en enseignement secondaire et supérieur au département de pédagogie de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Il est également responsable du pôle d'innovation technopédagogique de la faculté d'éducation et membre de GRIEPTIC. Clara Dian-Charles, doctorante, Université de Sherbrooke, pôle d'innovation technopédagogique. Courriel, clara.dian-charles@usherbrooke.ca. Clara est étudiante au doctorat en éducation à l'Université de Sherbrooke et titulaire d'une maîtrise en communication à l'Université de Montréal. Elle travaille également pour le pôle d'innovation technopédagogique de la faculté d'éducation. Caroline Pelletier, conseillère pédagogique, Université de Sherbrooke, pôle d'innovation technopédagogique. Courriel, caroline.pelletier@usherbrooke.ca. Caroline est conseillère technopédagogique au pôle d'innovation technopédagogique de la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi chargée de cours en enseignement au préscolaire et au primaire. Guillaume Laporte, consultant, Jonction Éducation, 195 rue Market Suite 3000, Sherbrooke, QC, J1HELC. Courriel, laporte@jonctioneducation.com. Guillaume est cofondateur et vice-président chez Jonction Éducation. Après de nombreuses années dans l'enseignement des sciences et technologies au secondaire, il est actuellement coordonnateur technopédagogie et Fab Lab au musée de l'ingéniosité J.A. Bombardier. Félix Arguin, consultant, Jonction Éducation, 195 rue Market Suite 3000, Sherbrooke, QC, J1HELC. Courriel, farguin@jonctioneducation.com. Félix est cofondateur et vice-président chez Jonction Éducation. Après 20 ans dans l'enseignement, il occupe le poste de coordonnateur administratif des environnements numériques au secteur Performa de la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Et il amorce actuellement une maîtrise en sciences de l'éducation.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial CC by NC 4.0 International License. This is the end of the article. The full text of this article is available at the Canadian Journal of Learning and Technology website, www.cjlt.ca.